France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Caroline Eliachef.
Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer la richesse des apports réciproques de la psychanalyse et de la médecine pour comprendre l'être humain et ses mécanismes, surtout lorsqu'ils sont inconscients. Je vais vous parler d'une forme de maltraitance rare et mal connue. Il s'agit du mystérieux syndrome de Münchhausen et de sa variante dite par procuration. Cette maltraitance a ceci de particulier qu'elle entraîne les médecins à devenir eux-mêmes maltraitants. Moi-même, lorsque je dirigeais un centre médico-psychologique pour enfants et adolescents en tant que pédopsychiatre, je m'y suis trouvée confrontée et peut-être qu'en m'écoutant, des confrères s'y retrouveront aussi. À l'issue de cette réflexion, je répondrai aux questions des auditeurs qui ont déjà écouté le podcast, puis laisser leurs commentaires sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur le répondeur au 01 56 40 64 04.
L'inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
Il faut que je commence par vous dire qu'il y a d'autres formes d'exercice de la psychanalyse que le divan-fauteuil. Freud lui-même et les premiers psychanalystes jusqu'à aujourd'hui ont eu à cœur de sortir de leur cabinet, pensant que la société devait profiter de leurs découvertes, et notamment celle de l'inconscient. Dans le domaine de l'enfance qui m'est le plus familier, à côté de leur activité privée, les psychanalystes ont contribué à l'édification de la pédopsychiatrie comme champ spécifique de la psychiatrie, et ils se sont imposés également en pédiatrie hospitalière. Ils sont aussi nombreux à travailler dans la plupart des dispositifs d'accueil destinés aux soins des enfants, notamment les CMP, centres médico-psychologiques. Pourtant, la profession psychanalyste ne figure sur aucune feuille de paie. On est engagé et rémunéré selon ses diplômes universitaires, comme psychologue ou comme psychiatre ou pédopsychiatre. Et que ce soit en institution ou à l'hôpital, nous ne pratiquons pas de cure classique et nous travaillons au sein d'équipes pluridisciplinaires. Entre pédiatrie et psychanalyse, les liens sont ténus. Winnicott en Angleterre est le plus célèbre des pédiatres convertis à la psychanalyse. En France, les premières psychothérapies analytiques pour les enfants ont été pratiquées par Sophie Morgenstern, puis par la jeune Françoise Marette, qui deviendra Françoise Dolto, dans le service de pédiatrie de Georges Hyères. La pédiatre et psychanalyste Jenny Aubry, elle, a été chef de service en pédiatrie à Necker, tandis qu'un peu plus tard, en 1965, et grâce à elle, le professeur Royer a sollicité son élève, la psychiatre et psychanalyste Ginette Rimbaud, pour travailler dans son service, en lui offrant pour la première fois, et d'ailleurs ce sera la dernière, une unité de recherche psychanalytique à l'INSERM. À sa suite, de nombreux psychanalystes, psychologues ou psychiatres de formation ont essaimé dans tous les services de pédiatrie et y ont mené des recherches passionnantes.
Alors nous, on fait connaissance aujourd'hui pour que tu me racontes ton histoire, pourquoi aussi vous venez me voir et puisque vous attendez de ce rendez-vous.
Donc, pourquoi on a voulu voir le docteur ?
Pour qu'elle nous aide.
Loin d'être confinés dans leur cabinet, les psychanalystes sont donc plongés dans la réalité sociale en cumulant leurs activités sans compter leurs heures de travail. Les souffrances qu'ils repèrent ont certes leur source dans l'histoire individuelle de chaque sujet, mais c'est la société qui, de tout temps, en produit le cadre. Et ce fameux syndrome de Münchhausen, aussi rare soit-il, en est un excellent exemple. Pour tout vous dire, je n'ai jamais vraiment compris pourquoi le facétieux baron de Münchhausen, un officier allemand du XVIIIe siècle, réputé pour ses fanfaronnades, était devenu involontairement célèbre dans les milieux médicaux du XXe siècle grâce au syndrome qui porte son nom.
Ne dites pas que vous ne connaissez pas le nom de ce bon baron de Münchhausen. Il a réellement existé au XVIIIe siècle, a réellement participé à 2 batailles contre les Turcs et ensuite passé sa vie à raconter ses aventures en rajoutant à chaque fois davantage, d'où une réputation de fieffé menteur.
C'est en 1951, dans le British Medical Journal, sous la plume d'un médecin anglais, Richard Asher, je prononce à la française, qui est décrit pour la première fois le syndrome de Münchhausen. Ce sont des patients qui créent de toutes pièces leurs symptômes, entraînant à leur demande insistante intervention médicale et soins répétitifs. Ils paraissent fort éloignés du fameux baron et ils ne font pas rire du tout les médecins. Dans cette revue scientifique fort sérieuse, le premier auteur et les suivants utilisent un ton au vitriol fort inhabituel pour décrire, je cite, « ces patients à problème qui pérégrinent d'un médecin à l'autre ». Fin de citation. Sans se soucier du secret médical, les noms des patients sont publiés et certains recommandent que ces consultants hospitaliers ambulants soient, le croirez-vous, placés à l'asile à vie. Comment expliquer une telle animosité et dans quel contexte s'exprime-t-elle? La description du syndrome de Münchhausen est contemporaine de la création du Service national de santé britannique, qui, comme la sécurité sociale en France, est né après la Deuxième Guerre mondiale. Des millions de Britanniques souffrent des dommages de la guerre et beaucoup d'entre eux se tournent vers ce Service national de santé qui est gratuit et efficace. Mais certains médecins craignent la disparition de leurs pratiques privées tandis qu'ils se voient submergés de patients nécessiteux. Ils en veulent à ces patients qui les poussent à faire des erreurs de diagnostic. De plus, ceux-ci coûtent cher à la collectivité en période de pénurie alors qu'ils provoquent leur maladie et changent constamment de médecin. Les conditions sociales et économiques de la médecine de l'après-guerre ont favorisé le contact entre des patients en manque et des médecins frustrés. L'un des effets de cette interaction est le portrait méprisable du patient atteint de syndrome de Münchhausen. Certes, les médecins invoquent le contexte social pour exprimer ouvertement leur hostilité envers ces patients par qui ils se sentent manipulés. Ceux-ci délèguent aux médecins les mauvais traitements qu'ils s'infligent à eux-mêmes en obtenant toujours plus d'investigations inutiles et douloureuses. Mais ceci a pour effet de révéler que pour soigner, tout médecin a sublimé ses penchants sadiques. Les voir ainsi exposés au grand jour ne peut susciter que de l'hostilité, vous ne croyez pas? Aujourd'hui, Gilles Fénelon a publié un livre sur ce sujet où il note que les réactions ouvertement agressives sont plus rares ou plus vraisemblablement ne se publient plus. Peut-être parce que les conditions d'exercice de la médecine ont changé. La question reste ouverte de savoir si le syndrome de Münchhausen est une maladie ou si la conduite de ces personnes peut être considérée comme celle de sujets malades, mais alors de quoi? De même pour le mensonge, est-ce une maladie? Mais qu'est-ce que le syndrome de Münchhausen par procuration? En 1977, Roy Meadow, un pédiatre anglais, publie les cas fort différents en apparence de 2 enfants. Une fillette de 6 ans présente des infections urinaires à répétition et un garçon de 14 ans souffre d'accès de somnolence et de vomissement. Le point commun entre ces 2 cas est le suivant. Les 2 mères rendent leurs enfants malades, l'une en favorisant l'infection, l'autre en intoxiquant son fils au sel. Meadow en fait illico une forme particulière de maltraitance. Il estime essentiel de dire aux médecins dans The Lancet qu'ils pourraient être complices d'une forme de maltraitance, notamment en prescrivant des examens inutiles et douloureux. Cette collusion entre la mère et un médecin qui renforce la situation lui apparaît comme un véritable scandale. Le même Meadow n'a pas d'explication concernant le comportement de la mère, sinon qu'elle utilise l'enfant pour s'entourer d'une équipe médicale amicale et rassurante. Il laisse ouverte la question de savoir si ce syndrome est inconnu parce qu'il est rare ou parce qu'il n'a pas de nom. Cette description est contemporaine d'une augmentation de mise en cause agressive des pratiques médicales et de conflits entre patients et médecins. Celles-ci sont paradoxalement favorisées du fait que la médecine, et en particulier la pédiatrie, ne compte plus leur succès. La mortalité infantile a considérablement diminué, la leucémie infantile n'est plus une fatalité, les maladies infectieuses non plus. Les prouesses techniques laissent présager un avenir radieux. Les parents qui se battent pour faire soigner leur enfant et les médecins qui ne trouvent pas de diagnostic sont dans une situation de tension qui peut favoriser de fausses allégations de Munchausen par procuration. Au début, les mères sont considérées par les équipes médicales comme des mères parfaites, s'occupant particulièrement bien de leurs enfants. Quand les médecins ne trouvent pas de cause aux symptômes de l'enfant, tout en étant harcelés par les mères qui demandent toujours plus d'exploration, ils finissent par se demander si ce n'est pas la mère qui rend l'enfant malade. Roy Mido avait sans doute des comptes à régler avec les mères. En tant qu'expert auprès des tribunaux, il en a envoyé des dizaines en prison. Il déclarait avec aplomb à propos de la mort subite du nourrisson « Un décès, c'est une tragédie. Deux, cela prête aux soupçons. Et trois, ce sont des assassinats. » Dans le journal Libération, on peut lire l'histoire de sa dernière victime. En 1989, Angela Kennings perd sa fille âgée de 13 semaines. En 1991, elle perd son fils Jason à 7 semaines. Et 8 ans plus tard, son troisième enfant, Matthew, décède à l'âge de 4 mois. Une enquête est ouverte. Angela Kennings est condamnée à la prison à vie pour avoir étouffé ses enfants. En déclarant à la barre que la mort de 3 bébés d'une même mère était, je cite, « un événement rare, très rare », fin de citation, Roy Mido a emporté la décision des jurés. Mais en appel, Angela Kennings a été acquittée et depuis, on a montré que plusieurs morts subites peuvent bel et bien se produire dans une même famille. Il n'empêche qu'une mort subite du nourrisson peut masquer un infanticide, raison pour laquelle une autopsie est aujourd'hui systématique. C'est encore un Anglais qui, dans les années 90, a placé des caméras vidéo dans les chambres d'hôpital. On a vu ainsi en direct sur les écrans des mères étouffer leur bébé, couper le tube à oxygène ou enfoncer leurs doigts dans la gorge de l'enfant puis demander de l'aide pour le réanimer. Dans la littérature anglo-saxonne, les conceptions des pathologies de la mère ne sont pas très convaincantes. Est-ce un trouble du comportement ou un acte criminel? Comment les distinguer? Au milieu des années 90, on peut trouver la description suivante de la mère, je cite. « Autoritaire dans sa supercherie, elle gagne le respect des soignants. Elle les appelle par leur prénom et leur apporte des gâteaux. Elle connaît par cœur le cas médical de son enfant. Elle est mariée et son mari lui laisse prendre les décisions médicales car elle a travaillé dans ce milieu. Quand on l'interroge sur la maladie de l'enfant, elle s'effondre en pleurs, blessée par la maladie chronique dont l'enfant est atteint. Elle ne quitte pas le pied du lit. » Fin de citation. Un expert l'appelle une mère hélicoptère. Au fil des années et par extension, le Munchausen par procuration apparaît de plus en plus comme le danger que représentent les mères qui s'impliquent trop avec leur enfant. Alors que les effets de la carence de soins sont bien connus, il est assez contre-intuitif de penser que trop de soins, trop de protection peuvent également avoir des effets délétères. Et pourtant, plus récemment, encore par extension, des experts ont proposé d'étendre le concept aux mères qui passent trop de temps, non pas à l'hôpital, mais à l'école, imposant la recherche de troubles cognitifs, de troubles psychologiques ou d'hyperactivité, surtout quand elles exercent le métier de psychologue, comme ces fameux experts n'ont pas manqué de le remarquer. Schreier, un psychiatre américain, veut que l'on inclue dans le syndrome de Munchausen par procuration les mères qui harcèlent la police, les travailleurs sociaux et le milieu scolaire. Il n'empêche que les cas de fausses allégations sont bien plus fréquents que les cas prouvés. ce sont ces belles histoires où les parents, désavoués par certains médecins, n'en continuent pas moins de consulter, parfois dans le monde entier, pour trouver celui qui fera le diagnostic et sauvera l'enfant. Et quand ça marche, c'est le triomphe des parents et la déconfiture des médecins, sauf du dernier. Quelle que soit l'issue de l'histoire, il s'agit toujours d'un rapport de force entre mère et médecin dont l'enfant est l'enjeu. En voulant étendre le même concept à toutes les mères manipulatrices, on risque de faire encore plus de faux diagnostics, car ce n'est pas parce qu'une mère est manipulatrice qu'elle induit les troubles dont l'enfant souffre. Le mode de relation aux professionnels et l'impossibilité de poser un diagnostic sont communs à ces situations disparates. Force est de constater que je ne connais pas d'autres cas où l'attitude du médecin entre dans la définition d'un trouble. Voici celle que donne Philippe Mazet, je cite. « Il s'agit d'un trouble factice par lequel une personne, généralement la mère, provoque ou simule chez l'enfant une pathologie organique, puis fait appel au médecin avec pour conséquence de le soumettre à des explorations, à des traitements inutiles, voire dangereux. » Fin de citation. Les observations publiées sont principalement centrées sur la difficulté du diagnostic. D'abord parce que le médecin n'y pense pas. Comment imaginer qu'une mère fasse des injections d'insuline menant son enfant dans le coma ou lui administre des poisons divers dans le biberon, la nourriture ou la perfusion, et ce à tout âge? Or, la preuve est très difficile à apporter. En France, à ma connaissance, on ne met pas de caméra dans les chambres d'hôpitaux. On ne soumet pas la mère au chantage en lui disant que si elle n'avoue pas, on lui retirera son enfant, meilleur moyen d'obtenir de faux aveux. Souvent, il s'agit d'un diagnostic par défaut. C'est en interdisant les visites aux parents que l'enfant guérit sans soins. Et une fois le diagnostic posé, l'affaire médicale est close et le dossier passe chez le juge pour qui l'expertise de la mère sera déterminante.
L'inconscient, avec Caroline Eliacheff, sur France Inter.
Le Parisien du 10 mars 2023 rapporte un fait divers, tragique, qui illustre ses difficultés. Une femme est actuellement mise en examen pour l'empoisonnement de sa deuxième fille, alors qu'elle est déjà écrouée depuis janvier 2022, car elle est inculpée d'avoir provoqué la mort de sa fille aînée. Celle-ci est morte à 18 ans d'une exposition prolongée à 24 molécules et d'une ingestion massive de bêta-bloquants pour lesquels elle n'avait plus de prescription. La cadette, qui est vivante, aurait ingéré à son insu pendant plus de 2 ans anxiolytiques, somnifères et bêta-bloquants. Entre 2018 et 2021, la mère a consulté 60 médecins. Elle conteste les faits et son avocat dit qu'elle était plutôt, je cite, « dans la surprotection ». Ce sera aux experts de déterminer si cette femme est atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. On comprend la déclaration de son avocat à la presse. Aux assises, l'empoisonnement suppose l'intention de nuire. Les experts s'appuieront-ils sur une compréhension psychanalytique du fonctionnement de ces femmes? Philippe Mazet, notamment, retrouve chez elles des traumatismes transgénérationnels avec perte d'amour et sévices corporels, une relation à leur propre mère dans un double versant idéal et persécuteur. Pour faire reconnaître la maltraitance qu'elle a subie, une femme peut utiliser son propre corps en se mutilant, mais elle peut aussi faire de l'enfant le porte-voix de son message. La mère, persécutée par sa propre mère, devient persécuteur de son enfant. La victime devient bourreau pour qu'un médecin soigne l'enfant alors qu'elle-même ne l'a pas été. Or, le médecin n'a pas les éléments pour déchiffrer ce message par procuration. Il tente de soigner l'enfant alors que c'est la mère qu'il faudrait soigner, ou plutôt l'enfant blessé dans la mère, ce qui relève pour le coup de la psychanalyse. Ça me fait penser à une autre pathologie rare, diagnostiquée elle aussi par défaut. Il s'agit du nanisme psychosocial. Ce sont des enfants qui présentent un retard de croissance important, pour lequel on ne trouve aucune cause médicale, en dépit d'examens très poussés dans les services d'endocrinopédiatrie les plus pointus. Ce n'est que lorsque l'enfant est complètement séparé de sa mère que sa croissance reprend quasi immédiatement et de façon spectaculaire. Les médecins ont toutefois beaucoup de mal à admettre que le seul traitement de cette pathologie grave de la relation mère-enfant soit la séparation. Dans les années 80, Mina Bourras et Ginette Rimbaud, toutes deux psychanalystes, avaient mené une recherche en suivant l'une les enfants placés et l'autre les mères acceptant de faire une thérapie dans le but de retrouver l'enfant dont elles avaient été séparées. Elles avaient pointé l'agressivité d'une rare violence entre la mère et l'enfant, plutôt agie que parlée. Sans généraliser ni trahir le secret médical, Ginette Rimbaud a pu montrer qu'en thérapie, des mères avaient pu reconnaître, non sans une immense culpabilité, la haine qu'elles ressentaient à l'égard de tel enfant d'une fratrie. Ginette Rimbaud remarquait aussi que leurs paroles rejetantes étaient renforcées par un regard haineux, mais aussi que ces femmes étaient incapables de comprendre d'où venait chez elles le germe de la haine, cette incapacité étant elle-même une souffrance. Alors que Freud décrit la haine comme un socle archaïque précédant l'amour chez l'être humain, ici on ne voit pas l'amour succéder à la haine. Cette haine primaire n'est pas l'envers de l'amour. Elle n'implique pas de volonté de destruction, mais plutôt le désir de mettre l'autre à distance. Cette haine est positive. C'est elle qui permet à la mère de se séparer de son enfant, et réciproquement d'ailleurs. Dans le nanisme psychosocial, la haine de la mère a perduré, mais sans séparation. Lorsque celle-ci est imposée par le médecin, son effet thérapeutique montre bien ce lien inconscient entre haine et séparation. Il n'empêche que le rapport entre la haine de la mère et la croissance physique d'un enfant garde sa part de mystère.
Oh, t'es un dégoûtant, un idiot!
Le syndrome de Munchausen par procuration garde aussi sa part de mystère. En rendant leur enfant malade, ces femmes révèlent à la fois qu'ayant été maltraitées, la haine peut parfois se substituer à l'amour maternel, mais aussi que pour devenir un bon soignant, il faut sublimer ses pulsions sadiques et savoir à l'occasion les reconnaître pour les refouler avant qu'il ne soit trop tard. Et enfin, je voudrais vous parler de ce que j'ai appelé le syndrome de Munchausen par procuration psychique. Je sais bien que corrélation ne signifie pas causalité, et pourtant. Autour des années 2000, la place de la psychanalyse dans la santé mentale se modifie à son désavantage, tandis que les neuroscientifiques font des découvertes étourdissantes sur le fonctionnement cérébral. Depuis déjà des années, la contraception, puis les méthodes de procréation médicalement assistée, obligent à vouloir plus qu'à désirer un enfant, tandis que la psychanalyse, avec la notion de désir inconscient, a révolutionné l'institution des nouveaux venus dans le sens de l'individualisation. Marcel Gaucher a formalisé de façon magistrale cette révolution dans un article publié en 2004 dans la revue Le Débat, intitulé « L'enfant du désir ». Il a écrit, je cite, « L'enfant choisit de s'incarner. Il choisit ses parents autant que ses parents l'ont choisi. Il se fait naître. Bref, il est environné de nécessités fantasmatiques dont on n'avait pas idée. Il s'y noue une aliénation terrifiante au lieu d'un détachement libératoire. » Et plus loin, il écrit, « Jamais en même temps, l'enfant n'a eu autant le visage de la victime virtuelle. Jamais il n'a semblé aussi vulnérable, jamais il n'a paru autant requérir d'être préservé d'une menace omniprésente. Tantôt on mésestime ses qualités, tantôt on lui en demande trop, mais surtout cette menace, ce sont les parents qui l'incarnent le mieux. » Fin de citation. De l'enfant du désir à l'enfant tel que je le désire, le chemin est direct. Qui dira la déception devant l'enfant du désir ? elle est d'autant plus ravageante qu'elle est inavouable, socialement et psychiquement. Elle engendre culpabilité et parfois des négations passionnées devant les dons supposés de l'enfant. Ces insécurités objectives engendrent fatalement de la haine. Il arrive donc que des mères viennent interroger les psychanalystes qui ont institué l'enfant du désir comme le nec plus ultra de la conception, au moment où les neurosciences cherchent et parfois trouvent une origine neurodéveloppementale à tous les troubles. C'est donc dans ce contexte, que je n'avais d'ailleurs pas forcément à l'esprit, qu'il m'est arrivé de penser au diagnostic de syndrome de Munchausen par procuration psychique cette fois, devant un enfant souvent malade physiquement et présentant aussi des symptômes psychiques très variés, bruyants, disparates, qui sont les motifs de la consultation.
Ne refais jamais ça, Bianca. Écoute-moi, je t'interdis de faire ça, tu entends ? C'est interdit de taper maman. C'est interdit, ne recommence jamais, tu comprends ?
Si.
Dehors.
Non.
Sors d'ici.
Non.
Or, au fil des consultations, loin d'aller mieux, l'état de l'enfant s'aggrave. Autant vous dire que ce n'est pas habituel. La situation familiale est toujours complexe ou douloureuse, avec un père absent ou sur le point de mourir. L'enfant est accompagné d'une mère avide de conseils qu'elle n'écoute pas, et plus l'enfant va mal, plus elle insiste pour maîtriser les prises en charge sans les remettre en question. On s'aperçoit vite que l'on fait exactement ce que la mère demande. Par exemple, multiplier ou espacer les séances, proposer d'autres explorations, allant des tests aux examens génétiques, en passant par des explorations cérébrales. Je précise que tous ces examens peuvent bien entendu avoir des indications que les psychanalystes ne doivent pas ignorer. L'enfant est totalement parasité et ne peut plus penser. Il réagit de façon désordonnée, souvent violente, car les mots lui manquent. En obéissant à la mère, le psy finit par se demander s'il n'entretient pas le mal-être de l'enfant au lieu de l'en affranchir. Dans un cas fort ancien, après plusieurs années de bons et loyaux services avec une adolescente qui avait perdu son père, j'ai interrompu la prise en charge, toujours réclamée par la mère, alors que la situation était, disons, catastrophique. Lorsque j'ai annoncé ma décision, la mère a reconnu, sans résistance pour une fois, qu'elle provoquait les tentatives de suicide de sa fille pour m'appeler après. Cette jeune fille a été annexée, attaquée dans son désir et sa capacité de penser par la violence des gestes et des mots. La disqualification par la parole est l'outil permettant à la mère de dominer l'autre, de se l'attacher, de l'assujettir et éventuellement de la détruire. C'est l'anti-maternage par excellence. Il a fallu que j'arrête la prise en charge pour comprendre d'où venait le malaise que je ressentais dans ma relation avec cette mère. Une forme de relation perverse, certainement, et un échec qui en apprend toujours davantage qu'une réussite, tant sur ce type de situation que sur soi-même. Il y a mille manières de parler des liens entre médecine et psychanalyse. Une de nos collègues, morte récemment, Danielle Brun, y a consacré sa vie et je tiens ici à lui rendre hommage. Mais je laisse le dernier mot à Ginette Rimbaud qui, répondant à la question « Quel peut être notre apport en tant qu'analyste dans le champ médical ?» a répondu « Il s'agit de subvertir le discours officiellement constitué et enseigné en favorisant une opération de décentrement grâce à laquelle les médecins reconnaissent que le corps est habité et déterminé par la parole. »
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Caroline Eliachef.
Dans un instant, je répondrai aux questions que m'ont adressées les auditeurs qui ont déjà écouté cet épisode en podcast. Je vous rappelle que nos sujets sont disponibles sur les plateformes d'écoute et que vous pouvez nous laisser, avant diffusion à l'antenne, vos questions et vos remarques sur la page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur le répondeur du 01 56 40 64 04. Fontaine d'ici sur France Inter. How cold love is. Écoute.
Oui, Valérie à l'appareil. Merci Caroline Eliachef pour cette émission très éclairante qui m'a beaucoup intéressée et fait écho à quelques rares situations rencontrées en milieu scolaire. Voilà, souvent c'est l'institution qui alerte et demande des investigations pour des élèves en difficulté, mais il arrive parfois que les équipes pédagogiques se surprisent des démarches de certains parents. Alors que l'enfant semble profiter de l'école et progresser, on observe une escalade de diagnostic plutôt libérale, c'est-à-dire non coordonnée par un consultant, une insistance pour que l'enfant soit reconnu en situation de handicap et aussi pour qu'une aide humaine à l'école aux côtés de l'enfant soit installée avec une multiplication de soins en escalade. Ces enfants ont des emplois du temps de fait surchargés d'aides diverses alors qu'ils ne sont ni spécialement en échec scolaire ni en difficulté préoccupante pour l'école. L'école qui a tendance à plutôt apprécier des parents impliqués plutôt que l'inverse. Ma question est, qu'est-ce que cela peut générer comme inquiétude et sentiment chez ces enfants ? Merci beaucoup.
Merci Valérie pour cette question. Effectivement, la situation que vous présentez existe tout à fait. Et on voit des parents qui cherchent désespérément on va dire un diagnostic qu'ils ne trouvent pas. et qui multiplie les démarches diverses et variées, alors que vous, vous avez plutôt l'impression à l'école que ça va bien. Alors, ce que je trouve, enfin, il y a une forme d'évolution qui est la suivante. J'ai l'impression que les parents essayaient avant tout de prouver que leur enfant était au potentiel et que maintenant, ils essaient de prouver qu'il est handicapé. Alors, évidemment, les deux existent. J'ai signalé dans cet épisode sur le Munchausen le fait que certains professionnels considéraient des parents comme exerçant Munchausen par procuration dans cette démarche désespérée, à la fois dans la démarche d'être très présent à l'école et de chercher désespérément un diagnostic ou des rééducations. Cela dit, c'est toujours assez difficile à apprécier et je pense qu'il faut être... Il faut être assez prudent avec ses parents et si on a l'occasion de parler avec eux, essayer de comprendre ce qu'il y a au-delà de leur démarche, si évidemment s'ils veulent bien s'y prêter. Et peut-être que dans le cadre scolaire, peut-être que la psychologue scolaire peut aider.
Isabelle. Ma question, le syndrome de Munchausen par procuration conduit-il uniquement à vouloir traiter des affections physiques chez la victime, l'enfant, ou bien peut-il porter sur des troubles psychiques ? Le contexte qui me conduit à poser la question est une fratrie de 3 filles de mon entourage proche, toutes 3 affectées de difficultés comportementales, sociales et psychologiques si fortes qu'elles ont toutes un parcours chaotique ne laissant pas présager d'une prise d'autonomie. Durant la petite enfance de l'aînée, la mère était en déplacement professionnel en semaine et c'est le père qui s'était essentiellement occupé de l'aînée. Par la suite, la mère a cessé son activité professionnelle et le père s'est alors beaucoup déplacé, souvent sur de longues périodes. Ce contexte m'évoque le syndrome de Munchausen par procuration. La mère indique ne pas avoir pu retravailler, ses filles demandant une attention et des soins constants. En fait, elle fait tout pour les garder sous sa dépendance, entretenir, voire provoquer leurs difficultés. Elle les accompagne partout, disant qu'elles sont incapables de s'orienter seules, ni même à deux, même après 15 ans. Elle leur fait des menus différents, individualisés. Le père semble subir et ne réagit pas aux allégations de la mère d'hérédité de troubles psychiatriques de la famille paternelle. L'aînée semble sortir de son dernier épisode dépressif. Elle pense que son propre contexte lui permet d'aller mieux que ses sœurs. Elle a choisi délibérément de s'orienter vers une filière très pointue, nécessitant un éloignement géographique en internat. Elle aime sa famille, mais ne supporte pas de la retrouver, notamment de voir la situation de ses sœurs, qu'elle a en vain tenté d'aider. La seconde a été orientée vers une impasse. Elle est actuellement déscolarisée et soignée pour dépression. La mère suppose un autisme, restant à diagnostiquer. La MDPH a qualifié la troisième d'enfant en situation de handicap. Le reste de la famille se sent démuni, pris entre la volonté d'aider ces jeunes filles, de ne pas les laisser à l'abandon, et le déni de la mère et le silence du père. Merci de donner des éclairages et merci pour vos émissions.
Merci Isabelle pour ce bel exposé. Je vois que vous avez l'air d'être une professionnelle relativement impliquée dans cette situation. Je vais essayer de répondre à peu près simplement à votre question. J'ai essayé justement de décrire le syndrome de Munchausen par procuration psychique. C'est-à-dire, c'est exactement ce que j'ai décrit, c'est-à-dire non seulement des actions physiques, parce que ce sont souvent des jeunes qui sont malades physiquement, mais également une forme d'emprise que j'ai décrite. Cela dit, le diagnostic est extrêmement difficile à poser. Je me garderais bien de poser le moindre diagnostic à la radio devant l'exposé que vous avez fait. Ce que j'ai essayé de faire, si vous voulez, c'est que les gens qui m'écoutent puissent y penser, ils puissent se poser la question. Donc c'est important de pouvoir se poser la question, à savoir est-ce que un parent n'est pas le moteur le moteur aggravant des symptômes de son enfant. Mais il est extrêmement difficile d'y répondre positivement et je crois surtout qu'il ne faut pas s'acharner à y répondre. ces familles doivent être prises en charge, bien entendu. Mais le but n'est pas d'essayer de prouver qu'il y aurait un syndrome de Munchausen par procuration psychique. Mais je vois aux réactions que j'entends que ça fait réfléchir nombre de mes collègues et peut-être des gens qui ne sont pas des professionnels mais qui voient ça autour d'eux. Et c'est le but que j'avais et donc je vois qu'il est atteint.
L'inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
Poursuivons avec vos questions.
Bonjour, je voulais vous remercier pour cette émission fantastique. Je suis enseignante depuis plus de 20 ans. Je travaille à l'étranger, mais je suis fidèle à France Inter et je voulais vous remercier de ce thème que vous avez évoqué qui, pour moi, informe ma pratique au quotidien dans le soutien que j'offre à mes élèves. Et je voulais vous demander si vous pensez que les conséquences du Covid, en fait, avec les confinements répétitifs, auront peut-être accentué ce phénomène qu'on voit aujourd'hui de syndrome de Munchausen. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.
Merci pour cette question, Nathalie. Alors, on ne voit pas plus de syndrome de Munchausen. Ça reste extrêmement rare. Et j'ai essayé de développer cette question pour montrer en quoi c'était en relation avec ce qui se passe dans la société. Mais à ma connaissance, il n'y a absolument pas d'augmentation notable du syndrome de Munchausen. En revanche, il y a évidemment des conséquences du Covid qui continue d'être étudié. Je n'ai absolument pas entendu que ça pouvait avoir comme conséquence un Munchausen par procuration. J'ai envie de dire bien au contraire, parce que ce qu'il s'est passé pendant le Covid, c'est que certes, tout le monde était confiné, les familles entières étaient confinées, mais la plupart des parents travaillaient en télétravail et s'occupaient peut-être moins que d'habitude de leurs enfants. Ça entraînait plutôt un sentiment chez les jeunes plutôt de délaissement que d'être sous la coupe de leurs parents. Ça a entraîné surtout le fait que les parents ont lâché sur le contrôle des écrans. Donc, une fréquentation des écrans qui, elle, a explosé, avec parfois des conséquences, je dis bien parfois, des conséquences tout à fait délétères, parce qu'évidemment, c'est pas les écrans en eux-mêmes, c'est qu'est-ce qu'on fait sur les écrans. Si on regarde des films ou des séries, c'est pas la même chose que d'aller sur certains sites. Donc, je ne crois pas du tout que les parents aient été tellement sur le dos des enfants, sauf parfois sur la question de l'enseignement, où effectivement certains parents se sont mis à faire les professeurs. C'est pas une critique, hein, je le dis de façon un peu comme ça, mais je comprends très bien qu'ils l'aient fait. Mais ils se sont rendus compte, je crois, que c'était un métier et que c'était pas du tout facile de vouloir délivrer de l'enseignement à des jeunes et en particulier à leurs enfants. Je crois que certains se sont beaucoup énervés et que ça a été aussi tout à fait délétère. Bref, les conséquences du Covid sont encore en train d'être étudiées. Elles sont immenses. En particulier, on voit aujourd'hui chez les adolescents une augmentation de la fréquence des tentatives de suicide, en particulier chez les filles, des troubles anxieux, etc., etc. Enfin bref, les services sont absolument surchargés et ils l'étaient déjà, mais ils l'étaient moins avant le Covid. On n'a pas fini d'étudier tout ça. Mais voilà, les études vont sortir, les jeunes vont s'exprimer, mais sur le Munchausen, franchement, enfin, je n'ai vu aucune étude là-dessus, et franchement, c'est pas mon impression.
Bonjour, je m'appelle Anna, et je vous remercie, l'émission est très intéressante. J'ai été victime de violence. Et ma question est simple, bien que douloureuse. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que j'accepte une manipulation, une emprise, qui finalement n'était pas moi? Et donc je suis effectivement en psychanalyse et je chemine, c'est très dur. sachant que face à la justice, vous êtes certainement incomprise, puisque on vous fait comprendre effectivement que vous avez une part de responsabilité. Mais quelle en est la limite? Qu'est-ce qui a pu se passer? Comment on peut se laisser faire? Comment on peut effectivement ne plus être soi, être totalement démuni de ses capacités à réagir et à ne pas justement sortir des griffes de la personne qui vous violente, qui vous manipule verbalement, psychologiquement et qui vous violente physiquement. Merci de votre entière attention.
Bonjour Anna, merci de votre question qui ne concerne donc pas directement le syndrome de Munchausen, mais j'avais quand même envie de vous répondre. La question que vous avez l'air de me poser, en réalité vous vous la posez à vous-même, et effectivement il n'y a que vous qui puissiez trouver la réponse, et j'ai bien compris que c'est ce que vous étiez en train de faire, puisque vous êtes en analyse. Vous posez la question de votre responsabilité et vous avez raison. Vous avez une part de responsabilité. C'est cette question-là que vous vous posez. Comment se fait-il que j'ai accepté tout ça? Admettre ça, ça n'est absolument pas justifier la personne qui a exercé de la violence sur vous. Mais je crois que pour vous, il est essentiel que vous cheminiez, comme vous dites, même de façon douloureuse, car pour passer à autre chose, je dirais, et surtout pour ne pas répéter ce qui vous est arrivé, effectivement, lorsque vous aurez bien cheminé, parce que trouver vraiment l'origine, parfois on n'arrive pas jusqu'au bout, mais c'est pas si grave. Ce qui est important, c'est de se poser la question, en quoi suis-je responsable, mais absolument pas coupable, mais quelle est ma part là-dedans? Je pense que c'est la meilleure façon de sortir aussi de la position de victime. Vous avez été victime de violence, mais j'espère pour vous, et je pense que vous êtes sur le chemin, vous ne serez pas une victime à vie et encore moins une victime professionnelle.
Bonjour, je viens d'écouter votre podcast sur le syndrome de Munchausen et je me demande quel est le rôle des pères parce qu'ils n'apparaissent nulle part dans les problèmes qui arrivent avec les enfants. Et il y a bien sûr des femmes excessives et qui font du mal à leurs gamins, mais il y a des hommes aussi. Et pourquoi vous n'en parlez pas? Voilà, je voudrais savoir. Merci.
Bonjour Emmanuel, je vais essayer de répondre à votre question sur les pères. Dans le syndrome de Munchausen, la clinique nous montre que les pères sont relativement absents. Mais ça ne veut pas dire... C'est une position d'être absent. C'est en ça, d'une certaine manière, qu'ils n'occupent pas leur fonction. Alors, c'est pas du tout l'idée que j'aurais qu'il faudrait pas parler des pères, mais c'est que dans les situations que j'ai décrites dans cet épisode, l'absence des pères est remarquable et remarquée, et que c'est ça, c'est du fait de leur absence qu'ils n'occupent pas leur fonction. Il y a bien sûr beaucoup d'autres situations où les pères, comme les mères, peuvent être toxiques pour leur enfant, ce qui ne signifie bien sûr pas que tous les parents sont toxiques. Loin de là.
Bonjour, je m'appelle Laurent. Tout d'abord, merci pour ce programme sur l'inconscient. Il est passionnant. J'ai récemment écouté deux podcasts, l'un sur le syndrome de Munchausen et l'autre sur le genre. Le terme bric-à-brac m'a poussé à vous poser cette question. Ma fille Mathilde a 16 ans. Elle souffre d'un syndrome qui est encore en cours de confirmation, de diagnostic, le temps de sa maturité, de sa majorité, qui est le syndrome borderline ou état limite, et qui me semble être un bric-à-brac de diagnostic ou de symptômes qui formulent ce diagnostic de syndrome. Et j'aurais aimé avoir votre avis d'analyste sur comment accompagner, soigner un syndrome état limite, qui est une association de situations, et comment un père peut accompagner sa fille dans cette situation. Merci beaucoup.
Oui, bonjour, bonjour Laurent. C'est très difficile de faire une consultation à la radio, et je ne vais pas m'y soumettre. Mais je voudrais quand même vous dire que votre fille, comme quiconque, n'est jamais réduite à un diagnostic. Même si ce diagnostic est posé, et bien évidemment, je ne me permettrai pas de le mettre en cause, ne sachant strictement rien de votre fille, ni des personnes qui ont posé le diagnostic. Chez les adolescents en particulier, la psychopathologie est extrêmement mouvante. Elle est mouvante quasiment d'une séance à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Et la seule chose que je puisse vous dire qui me paraîtrait positive, c'est de vous dire que, quel que soit le diagnostic posé, votre fille ne se réduit pas à un diagnostic. Alors comment l'accompagner? Manifestement comme vous le faites, en gardant le contact, en lui ayant proposé, je suppose, un mode de prise en charge, et vous-même en ne vous laissant pas enfermer, dans un diagnostic, quel qu'il soit. Alors, le syndrome borderline, c'est effectivement, c'est presque par défaut que l'on établit ce diagnostic, puisque ce sont des personnes qui puisent un peu partout, et qui empruntent aux différentes structures et qui ont des manifestations extrêmement polymorphes. Quand un diagnostic est posé, ça n'excuse pas le comportement de votre fille. Autrement dit, comportez-vous, j'ai envie de dire, normalement. Hein. Ne mettez pas sur le compte d'un diagnostic le fait qu'elle agisse comme ci ou comme ça, et que donc ça vous empêcherait de réagir en père. Hein. Vous avez à réagir en père, et en père P-E-R-E, hein, et les professionnels réagiront en professionnels. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Nathalie et ma question est un peu générique. Ma question c'est, quelle différence faites-vous entre votre prestation de psychanalyste et psychiatre au début de votre carrière et celle que vous pouvez donner maintenant en fait? Ma question en fait au plus profond c'est, est-ce que vous regrettez avoir fait certaines choses, avoir dit certaines choses, ou ne pas avoir dit ou ne pas avoir fait certaines choses, et quelles sont les incidences? Merci.
Question très personnelle. Écoutez, d'abord, j'ai commencé à écrire des livres à 40 ans, donc j'étais pas si jeune. Et ensuite, effectivement, j'ai fait de la radio pendant assez longtemps. Est-ce que j'ai des regrets? Certainement pas. Est-ce que j'ai pu dire des bêtises? Probablement. Est-ce que je les regrette? Non, je les assume. Voilà, quand on fait j'ai fait des chroniques hebdomadaires pendant 10 ans, et donc elles sont probablement inégales, mais voilà, d'abord j'ai eu un grand plaisir à les faire, et non, j'ai pas de regrets. Je pense qu'aujourd'hui peut-être je dirais certaines choses différemment, mais grosso modo j'assume à peu près tout ce que j'ai dit et écrit. Voilà, alors si vous avez des reproches précis à me faire, allez-y, nous reprendrons ça ensemble. Merci pour vos questions et merci à Vincent Godard à la technique, Valentine Chetbois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et à la réalisation Audrey Ripouille et Anaïs Reinhardt. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Loffer. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient, sur franceinter.fr, et lui laisser vos messages par note vocale ou sur le répondeur du 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 4 juin et je vous parlerai de transmission.